Le journal d'Alexandre Rosset.
Bonsoir. Les physiothérapeutes se mobilisent contre un projet du Conseil fédéral visant à revoir leurs tarifs. Le gouvernement prévoit notamment de limiter les séances de base à 20 minutes, un changement susceptible, selon la branche, de péjorer la qualité des soins. Une soixantaine de pages pour revenir sur l'histoire du minerai de fer à Delémont. Le magazine Défi de Projura a récemment sorti un numéro d'exception. Toute une série de photos ont été réunies pour l'occasion. Plusieurs tronçons d'autoroutes seront élargis en Suisse. Le Conseil des États a validé aujourd'hui un crédit de 13 milliards de francs qui comprend aussi de l'entretien. L'objectif est de réduire certains goulets d'étranglement. La journée de demain s'annonce encore assez chaude, mais les nuages seront de plus en plus nombreux l'après-midi. Des pluies parfois orageuses arriveront en fin de journée. Les physiothérapeutes sont en colère. Le Conseil fédéral a lancé mi-août un projet pour revoir les tarifs de la branche. Il souhaiterait notamment introduire une composante de temps pour les séances forfaitaires. Objectif, diminuer les coûts de la santé et apporter plus de transparence aux patients. L'Association suisse de physiothérapie s'oppose à cette modification. Au début du mois, elle a lancé une pétition qui a déjà récolté plus de 68 000 signatures. Pour le président de Physio Suisse Jura, si le projet est accepté, ce changement tarifaire mettrait en péril la qualité des prestations et la rémunération des physiothérapeutes. Raphaël Ferreira.
Notre prise en charge, elle va être réduite déjà à une période plus courte de 20 minutes avec une rémunération beaucoup plus basse. Donc il y a beaucoup de dangers concernant la qualité de soins et vu qu'on a moins de temps, forcément pour soigner quelqu'un, il aura plus besoin de séances et ça n'apportera rien de bénéfique pour le système ni pour le patient.
Donc selon vous, avec ce projet de restructuration des tarifs, la qualité des soins s'en trouverait affectée?
Alors vraiment, parce que dans une période de 15 minutes, on ne pourra pas être efficace et évaluer correctement le patient, faire un traitement adéquat et avoir en compte l'aspect biopsychosocial. Donc voir le patient comme il doit être vu et pas simplement entrer, être soigné et puis sortir. Ça, c'est pas des bons soins.
Raphaël Ferreira, président de Physio Suisse Jura, qui répondait à Émilie Charmillot. La modification d'ordonnance proposée a été mise en consultation par le Conseil fédéral jusqu'au 17 novembre. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 2025 si elle est acceptée. Un important excès de vitesse a été mesuré entre Soyères et Lisberg. La police indique aujourd'hui qu'un motard a été pincé dimanche à 145 km/h sur un tronçon limité à 80. L'homme domicilié dans le canton de Berne a été interpellé hier par les autorités bernoises et remis aux autorités jurassiennes pour une audition. Son permis de conduire a été saisi et sa moto séquestrée sur ordre du ministère public. Une procédure ordinaire pour délit de chauffard a été ouverte. Le magazine Défi s'offre une édition d'exception sur l'histoire du minerai de fer à Delémont entre 1845 et 1945. Le 17e numéro de la revue édité par Projura, l'association de promotion de l'identité jurassienne, vient de paraître. Il compte une soixantaine de pages, soit le double d'un numéro classique. La revue a été tirée à plus de 3000 exemplaires. Elle contient des textes écrits par l'historien et archéologue Vincent Friedli. Le numéro propose également une riche iconographie. Le rédacteur responsable de Défi explique comment les photographies ont été réunies, Didier Valzer.
On a laissé carte blanche à Vincent Friedli, qui a lui-même accès à des archives qui sont assez exceptionnelles, notamment du Musée jurassien d'art et d'histoire à Delémont. Lui, en tant effectivement qu'historien et archéologue, il a aussi accès à un certain nombre d'archives. Donc, on lui a laissé carte blanche pour trouver des photos qui sont absolument exceptionnelles. Et c'est à souligner, il y a beaucoup de photos qui sont sorties dans ce magazine, qui sont des photos totalement inédites qu'on n'a jamais vues nulle part.
Des photos qui ont été bien souvent réalisées par des photographes du coin.
C'est en fait toute la dynastie des Hénard qui, à peu près sur 150 ans, a réalisé l'essentiel des photos qui paraissent dans ce magazine. Et vous pourrez vous rendre compte que par rapport aux moyens technologiques d'aujourd'hui, les photos que l'on trouve dans ce magazine sont franchement tout à fait exceptionnelles, avec une qualité, une luminosité et surtout une précision, notamment par rapport à des photos où il y a un champ très profond. Et on se rend compte que la netteté de la photo est impeccable au premier plan, mais aussi tout au fond de la photo. C'est franchement exceptionnel.
Des propos recueillis par François Comte. Le numéro 17 de la revue Défi s'intitule « Le fer, l'or du Jura ». Il est disponible auprès de Projura. Plus d'informations en lien sur notre site rfj.ch. La région n'a pas été épargnée par la peste au Moyen-Âge. Le sujet est au cœur d'une conférence donnée ce soir au CIPA Tramelan à 19h30. Cette pandémie a dévasté la population de l'arc jurassien. Des charniers ont d'ailleurs été récemment découverts dans la région, notamment à Saint-Bray et au Bois-Échet. Alain Bosson, historien spécialisé dans l'histoire de la médecine, va donner la conférence ce soir et il évoquera notamment les progrès attribuables à la peste.
On peut vraiment créditer à la peste et surtout à la réaction contre la peste la mise en place de politiques sanitaires. Avant le XIVe siècle, vraiment, la santé est une affaire individuelle. On avait oublié ce que c'était que des épidémies capables de tuer des pourcentages à deux chiffres de la population. On avait oublié ça. Et à partir donc du XIVe siècle, des mesures très familières à nos oreilles, comme confinement, isolement des malades, tout simplement aussi la mise en place dans nos régions de médecins des villes, des embryons finalement d'Office fédéral de la santé publique. Ces choses-là sont accréditées à la réaction des populations face à la peste. Donc effectivement, la peste a permis aux sociétés qu'elle a traversées justement de se constituer sur le plan donc sanitaire.
Et d'après Alain Bosson, en 1628, jusqu'à un quart de la population biennoise est décédée des suites de la peste. La Suisse a franchi pour la première fois la barre des 9 millions d'habitants, un chiffre atteint fin juin et publié aujourd'hui par l'Office fédéral de la statistique. Sur les 6 premiers mois de l'année, 47 000 personnes ont immigré en Suisse, la plupart en provenance du continent européen. La Confédération explique cet afflux par la forte demande sur le marché du travail et le chômage structurellement bas. Les goulets d'étranglement du réseau autoroutier suisse doivent être élargis. Après le national, une nette majorité du Conseil des États a validé aujourd'hui un crédit de 13 milliards de francs. L'essentiel va à l'entretien des routes nationales, mais près de 5 milliards permettront d'accroître la capacité de 6 tronçons, dont 2 autour de Berne et un en Suisse romande. Le fait d'investir aujourd'hui dans les autoroutes n'est pas forcément irresponsable, malgré les arguments écologiques selon la centriste valaisanne Marianne Marais.
Je crois qu'il faut voir le problème sous un autre angle. Aujourd'hui, on a des régions qui sont clairement engorgées, dans lesquelles il y a des bouchons quotidiens. Et ce qui se passe, c'est que le transit est dévié à l'intérieur des localités adjacentes. Et c'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, on a tous à peu près un GPS. Donc, GPS nous signale sortez de l'autoroute et entrez un peu plus loin. On doit amener les réponses, même si pour les tenants d'obédience plutôt écologique, ça peut faire appel d'air. C'est peut-être pas faux, mais moi j'ai surtout pensé aux habitants des localités concernées. On ne peut pas continuer à dire on ne veut pas agrandir les autoroutes et laisser les localités adjacentes souffrir.
Et les 4 oppositions à l'élargissement des autoroutes ont émané des rangs de la gauche. La conseillère aux États vertes genevoise, Lisa Mazzone, en fait partie. Elle nous explique son refus.
Le sens de mon intervention, c'est de placer les préoccupations climatiques, de qualité de vie dans les agglomérations, lutte contre le bruit, sécurité routière au premier plan. Et la politique des transports qu'on a adoptée est en échec. Depuis une dizaine d'années, on dépense des milliards dans le rail. Mais en faisant la même chose dans la route, le problème c'est qu'on annule cet effet et au lieu d'avoir un transfert, on voit qu'à chaque fois qu'on augmente la capacité autoroutière, quelques temps après, il y a déjà une congestion. Cette logique de un coup dans la route, un coup dans le rail, elle ne fonctionne pas. Tant qu'on reste dans cette logique, on ne va pas chercher les solutions alternatives.
Un sujet de notre correspondant à Berne, Serge Jubin, l'association Transport et Environnement, l'ATE, a déjà annoncé son intention de lancer un référendum contre l'élargissement de ses 6 tronçons autoroutiers. Elle avait échoué face à Elisabeth Baumschneider. Eva Herzog a décidé de renoncer à une nouvelle course au Conseil fédéral. La conseillère aux États socialistes baloise a indiqué aujourd'hui qu'elle n'allait pas briguer le siège d'Alain Berset. Elle dit vouloir se concentrer sur la présidence du Conseil des États l'an prochain. Et jusqu'à présent, 3 politiciens se sont montrés intéressés. Il s'agit du conseiller aux États zurichois Daniel Josic, ainsi que des conseillers nationaux Matthias Ebischer et Mustafa Atici. À l'étranger, l'Azerbaïdjan a assuré cet après-midi vouloir une réintégration pacifique du Nagorno-Karabakh après sa victoire éclair contre les séparatistes arméniens de ce territoire disputé depuis des décennies. Les séparatistes ont capitulé aujourd'hui et accepté des pourparlers, un accord conclu sous l'égide des forces de paix russes. Le roi d'Angleterre, Charles III, est arrivé cet après-midi en France pour une visite d'État de 3 jours. Empreinte de solennité et de faste, elle doit célébrer la relance de l'amitié franco-britannique après les turbulences du Brexit. Charles III et Camilla ont été accueillis par la Première ministre Elisabeth Borne à l'aéroport. Ils sont ensuite descendus les Champs-Élysées en compagnie d'Emmanuel et de Brigitte Macron.
RFJ, il est 18h11.
Sport. Victoria Golubic n'ira pas plus loin que le second tour au tournoi de tennis WTA de Canton en Chine. La Zurichoise a été éliminée cet après-midi par l'ancienne Suissesse et désormais espagnole Rebecca Masarova. Victoria Golubic a pourtant eu 5 balles de match avant de s'incliner en 3 manches, 6-1, 3-6, 7-6. Marlène Reusser s'est offert un beau cadeau d'anniversaire ce mercredi avec un troisième titre européen. La cycliste bernoise de 32 ans a été sacrée sur le contre-la-montre au championnat d'Europe à Emmen aux Pays-Bas. Sur un tracé d'une trentaine de kilomètres, elle a devancé l'anglaise Anna Henderson et l'autrichienne Christina Schweinberger d'une quarantaine de secondes. Et chez les hommes tenants du titre, le turgovien Stéphane Bissiger a décroché la médaille d'argent derrière le jeune britannique Joshua Tarling. Le peloton du trophée jurassien s'attaque ce week-end à l'avant-dernière épreuve de course à pied. Le trophée de la Tour de Moron est au programme dimanche matin au départ de Malraix, tracé bien connu des coureurs de la région avec ses 11,8 km pour près de 820 mètres de dénivelé positif. Vainqueur l'an dernier en 57 minutes, le prévotois Gilles Bailly tentera à nouveau à 46 ans de se hisser parmi les meilleurs sur cette course exigeante. Il revient sur les qualités que demande ce parcours particulier qu'il connaît par cœur.
Je ne mettrais même pas vraiment dans une course de montagne pure parce que jusqu'au 6e kill, entre guillemets, c'est quand même assez roulant. Il y a un gros mur au début, mais après, c'est beaucoup des pâturages, beaucoup des relances, des faux plats, des montées. Donc pour moi, la course, elle commence vraiment à partir de Saul, à partir du 8e. Je pense que c'est une course, il faut plus être capable d'être bon sur du vallonné avec du rythme que forcément être pur montagnard. Moi, j'ai vu quand il y avait les Suisses, je me suis fait battre par des gars qui n'avaient jamais fait de montagne. Parce qu'ils avaient la pêche, ils avaient la niaque, mais par contre, ils étaient très bons sur un semi-marathon, par exemple. Surtout que la fin, c'est quasiment plat. Ça ne sert à rien de mettre une mine et puis de finir premier à la première côte, puis après de se faire avaler, quoi. Il faut toujours, entre guillemets, un petit peu en garder sous la semelle. Et puis c'est ça qui n'est pas évident. Ce n'est pas une de ces courses où on part à 500, puis on finit à 1500 mètres d'altitude, par exemple. Donc moi, je pense qu'il faut plutôt être bon sur une heure de course et fort, style un semi-marathon. Je la compare aussi aux tirades, parce que les tirades, ça monte, ça redescend, il y a du plat. Mais je ne la compare pas vraiment à une de ces courses de montagne pure de 10 kilos avec 1000 mètres de dénivelé, c'est encore autre chose.
Le trophée de la Tour de Moron, c'est dimanche matin. Le départ sera donné à Malraix à 9h30. Et c'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une excellente soirée.